Voici le quatrième épisode de ma série de podcasts consacrée à l'année 1993. Le programme, Marseille, qui signe la première victoire française en Ligue des champions de football. Et le même Olympique de Marseille, englué dans l'affaire OMV1. Le père du petit Grégory jugé pour le meurtre de Bernard Laroche et Johnny qui fête ses 50 ans en grande pompe.
1993, Ondelat raconte sur Europe 1.
Le 26 mai 1993, l'Olympique de Marseille est en finale de la Ligue des champions de football face à la meilleure équipe du monde, le Milan AC. Il y a deux ans, l'OM a laissé échapper la victoire. Cette fois, il ne faut pas se louper. Et bien sûr, toute la ville pousse derrière son équipe.
J'ai fait des bouquets bleus et blancs parce que j'aime l'OM. J'ai déguisé mon chien aussi. Je lui ai mis des pompons sur la tête et j'ai mis des posters un peu partout.
Nous avons une boutique de trajets, donc nous avons voulu participer et nous avons décidé de créer un petit personnage qui va représenter le joueur de l'OM ainsi que celui de Milan. Tous ces petits joueurs sont garnis de dragées ainsi qu'un stade qui est assez impressionnant avec environ 1,80 m de diamètre.
Alors ma boutique est de 7 mètres de long avec des peignes de drapeaux, des fagnons, tout ce qui est bleu et blanc. Après, il y a peint sur la vitre par un peintre en lettres de métier. On a fait une très jolie vitrine avec la bonne mère, beau lit à genoux, en train de prier. J'espère que ça va marcher. J'espère ou l'infarctus ou la joie.
Et comme toujours dans les grandes occasions, les Marseillais viennent demander le soutien de la bonne mère.
C'est une envie qu'on a, le Marseillais, de monter parce qu'on lui demande peut-être l'impossible. Et je crois qu'elle pourra nous aider. Elle prie pour les pêcheurs, elle peut prier pour les footballeurs. Et il faut prier.
Elle ne sera pas sur le terrain. Mais de toute façon, elle sera avec nous quand on enfoncera les Milanais.
Il y a deux ans, on n'est pas venu et ça a porté malheur. Alors peut-être que cette année, on va gagner en étant venu.
Lui-même supporter de l'OM, c'est le père Robert Levé qui a béni ses pèlerins, pas tout à fait ordinaires.
Moi, ça m'étonne pas que les gens aient l'idée de monter ici, parce que dès qu'il y a quelque chose d'important à Marseille, on pense à Notre-Dame-la-Garde. Je crois même que si on n'est pas supporter à Marseille, où le sera-t-on ?
On est à quelques heures du coup d'envoi. Marseille est en ébullition.
C'est ça, Marseille. Depuis le début de l'après-midi, toutes les voitures klaxonnent, les conducteurs, les passagers, les bras dehors brandissent des drapeaux blancs et bleus. Des groupes de jeunes hurlent sur la canebière la chanson de l'OM, bardés de bleu et de blanc jusqu'au visage des gamins, souvent couverts de peinture.
J'ai pris le foulard de ma mère et j'ai écrit des choses dessus sur l'OM. Et maintenant, ça me fait une cape. J'ai pris des bouts de tissu, j'ai écrit OM, je me suis mis sur les jambes et j'ai fait un bandeau sur la tête. Et maintenant, ils encouragent l'OM.
Milano, Milano, va fan culo.
On a acheté une grande télé, donc on va être au moins 40. On a acheté 35 bouteilles de champagne. On s'entraîne pour ce soir.
Dans une demi-heure, les commerçants vont tirer les rideaux, les rues vont se vider. Ce sera le silence après les hurlements et les embouteillages, car tous les Marseillais vont s'installer devant les écrans de télé. La ville va retenir son souffle, comme pour une dernière prière à la bonne mère, avant de pousser son prochain cri au coup d'envoi. Dans un bistrot du Vieux-Port, le patron vient de changer son menu. Le mercredi, c'est habituellement l'escalope milanaise. D'un coup de crêt rageur, il a inscrit d'aube avant de boire son premier pastis. À la santé de l'OM, Marseille, Brigitte Rinaldi, Europe 1.
Le coup d'envoi est donné et on s'ennuie ferme jusqu'à la 43e minute. Sur Europe 1, c'est le Marseillais Eugène Saccomano qui est à la manœuvre.
But de Milan ! But fabuleux de Basile Boli ! Oh ! Oh, quel but ! Oh, Baz ! Oh, Baz ! Oh, Baz, que tu nous fais plaisir ! Oh ! Sur ce corner fabuleux d'Abidi Pédé, Basile Boli, notre brave Basile !
À 2 minutes de la mi-temps, c'est un ascendant psychologique pas possible. Et si on arrive à tenir la seconde mi-temps, ça va être la fête du monde à Marseille.
Un but d'avance, c'est un peu léger face à la meilleure équipe du monde. Mais l'avantage tient jusqu'au bout.
On joue depuis 48 minutes dans cette seconde mi-temps. Maintenant, longue balle, mais Boli la dégage en touche alors qu'il a été touché. Et l'arbitre, Marseille est champion d'Europe. Je vous le dis, Marseille est champion d'Europe. C'est la première fois dans l'histoire du football français qu'une équipe remporte la Coupe. l'Europe des clubs champions. C'est fabuleux. Marseille, heureux. Marseille, euphorique ce soir.
Dans la foulée de la victoire, défilé des joueurs de l'OM au micro d'Europe 1. Ici Franck Sauzet.
Je crois qu'il n'y a pas de mots en fait. C'est indescriptible. Je souhaite à tout homme, tout être humain, de ressentir ce qu'on a pu ressentir au coup de sifflet final, je crois. Dans une vie de sportif et même dans une vie d'homme, ça compte, ces sensations.
Et maintenant, toujours au micro d'Europe 1, voici le héros de la soirée, Basile Poli, auteur du coup de tête victorieux.
Mon but n'est pas extraordinaire. J'anticipe devant Rijka et je place ma tête. Mais cette tête, alors, elle va tout droit. Oh là là, je la vois partir.
Vous mesurez ce qui s'est passé ce soir ?
Pas encore. On verra dans les jours à venir.
Le président de l'Olympique de Marseille, Bernard Tapie, évidemment jubile. Il a pris les rênes de l'OM pour tout gagner. Il a tout gagné. Marseille est le premier club français à remporter la Ligue des Champions. L'OM réussit là où les célèbres Verts de Saint-Étienne ont échoué il y a 17 ans.
On réalise, et quand on voit les yeux de ceux qu'on a l'habitude de voir, on se rend compte que ça leur a vraiment fait un plaisir. Je ne sais pas si on pouvait leur faire un autre plaisir aussi grand.
Si on pouvait convaincre ceux qui ne nous aiment pas encore qu'on mérite d'être un peu mieux aimés, ça serait bien. Ouais, je crois que ce soir, c'est vraiment pas 2 milliards, on m'a dit. 2 milliards de personnes qui vous ont vu.
J'ai
vu Marseille,
c'est grandiose. C'est extraordinaire, c'est historique. C'est une journée à marquer d'une pierre blanche. C'est extraordinaire.
C'est fantastique.
Vous savez, d'ordinaire, nous les Marseillais, on est toujours décriés. Mais aujourd'hui, on est le porte-flambeau de la France. On a représenté dignement la France. Et on est fiers aujourd'hui d'être Marseillais et d'avoir donné à la France la première Coupe d'Europe.
Entendez-moi la Marseillaise qui se chante. Vous entendez la Marseillaise là. Ça dépasse les frontières, c'est fabuleux. Il faudrait l'hymne du monde, il faudrait que quelqu'un fasse l'hymne mondial. Et on m'a retrouvé, je veux le composer. Ah, la bonne mère était avec nous ce soir. Je ne dis pas qu'elle a trahi les catholiques de Milan, mais quand même, c'est un petit de Romainville, d'origine de Côte d'Ivoire, qui s'appelle Basile Poli, et qui est un petit Marseillais fait à la main.
Ils ont pleuré, ils ont hurlé, certains se sont jetés dans le port, tout habillés, d'autres debout sur le capot des voitures, agités des drapeaux. Marseille a explosé de joie. La foule a noirci la Canebière, le vieux port, Marseille a craqué.
Demain, je suis libérable à l'armée, et ouais, il y a tout qui vient en même temps, la Libé. On est deux libérables, c'est la même base, on est venu fêter l'OM et on a gagné. Et demain, on va les rendre fous à ces Stéphanois, les Bordelais, les Parisiens, tout ce qu'ils veulent. Voilà, c'est la fête aux Marseillais et on a gagné.
J'arrive plus à parler.
J'arrive pas à parler. C'est normal. Hein.
Le lendemain de cette nuit d'ivresse, Brigitte Rinaldi mesure la folie qui s'est emparée de Marseille la veille.
Ce matin, Marseille a retrouvé un peu de calme, mais seulement pour quelques heures. Les supporters ont dansé et chanté toute la nuit. Ils n'ont plus de voix après la fête, aux klaxons, aux fumigènes, aux pétards. Le foot a réuni tous les enfants de Marseille venus à pied sur la Canebière pour hurler leur joie. Maryse, la poissonnière du Vieux-Port, les yeux rougis de fatigue, était pourtant fidèle au poste ce matin, même si ses clients dorment encore.
On y croyait, mais une fois qu'on a vu que la cette vierge avait deux petits sur les bras, là, on y a cru complètement, vous voyez. Moi, j'habite au boulevard Rouvier, là-bas. Je vous promets que c'est entouré de personnes âgées. Eh bien, toutes les mêmes sont sorties, agiter le drapeau et tout. C'était formidable. Donc, la mère, alors là, elle a prié pour nous, hein, pour tout le monde, là, hein, je vous promets. Hein. Je vous ai dit, vous n'avez pas regardé ce matin, elle a le deuxième petit sur les bras. C'est sûr. Un, c'est le sien, et le deuxième, c'est l'équipe de l'Olympique. Hein.
Au début de l'été 1993, l'OM fait encore son titre de champion d'Europe quand s'ouvre un épisode beaucoup moins glorieux. Une enquête judiciaire contre l'OM est ouverte. Un joueur de Valenciennes, Jacques Glassman, vient de révéler que le directeur sportif de Marseille, Jean-Pierre Bernès, a tenté de le corrompre. Il lui a demandé de lever le pied lors du match Valenciennes-OM, quelques jours avant la finale de la Ligue des Champions. Cette révélation est une bombe.
Bon, Bernès me sort des choses tellement aberrantes que je suis dégoûté. Bah, il me propose de l'argent, il me dit « Est-ce que vous êtes prêt à nous aider ? Il vaut mieux perdre un match avec 200 000 francs en poche qu'avec 0 francs. Vous, vous avez aucune chance de gagner contre nous. Bon, c'était cru, tout ça c'était déjà manigancé à l'avance, et moi j'ai été dégoûté. J'ai passé le téléphone à Georges Bourouchaga qui a continué à négocier, et puis voilà.
Glasman, lui, dit qu'il a refusé. Mais il affirme que deux de ses coéquipiers, Georges Bourouchaga et Christophe Robert, ont accepté. Ce que d'ailleurs tous les deux nient. Quant à Bernard Tapie, on ne l'entend pas beaucoup. Il laisse son vice-président, Jean-Louis Levrault, monter au front.
Je trouve que tout ça est assez rocambolesque et qu'il faut que la vérité soit faite, que la lumière soit faite. Et je dis très fort que si... À la lumière de cette vérité, il s'avérait effectivement que des gens de notre club, soit par sottise, soit par maladresse, soit parce qu'ils ont une conception du football que nous n'avons pas, aient commis ce genre d'erreur, des sanctions très importantes seraient prises à l'intérieur même du club, en dehors de ce qui pourrait être fait par ailleurs. Ça ne serait pas un exploit de la part des dirigeants de l'OM de sanctionner quelqu'un qui les aurait trompés et qui aurait... commis une erreur qui fasse donner du club une mauvaise image. Mais je répète que je ne crois pas que ça soit possible.
Eh bien si, c'est possible. L'enquête confirme les accusations de Glasman. Un Marseillais a bien appelé les joueurs de Valenciennes à leur hôtel. Pour s'en assurer, les flics ont utilisé une méthode révolutionnaire à l'époque.
Dans le dossier Marseille-Valenciennes, les enquêteurs ont recherché avec autant de soin les signatures informatiques que les empreintes digitales. Signe des temps, car aujourd'hui l'informatique, Stéphane, est partout, elle garde tout en mémoire et elle peut transformer des gestes anodins en indices ou éléments à charge. C'est grâce à un standard téléphonique informatisé, le PBX, que le procureur de Valenciennes, Éric de Montgolfier, a trouvé l'élément de base de l'enquête.
Lorsque nous avons su qu'il y avait un appel téléphonique suspect de l'un des hôtels à l'autre, l'idée nous est venue assez rapidement avec le juge d'instruction qu'il pouvait y avoir un enregistrement. On l'a vérifié, effectivement, le système existe.
Consulter les ordinateurs, compulser les listings, c'est désormais un réflexe pour les policiers. Charles Pellegrini, ancien patron de l'Office central de répression du banditisme.
L'élément prédominant d'une enquête policière, c'est le maintien et la conservation des preuves. Avant, on avait des rapports, des fiches d'hôtel jaunies dans des tonnes de fichiers. Aujourd'hui, on a l'informatique.
Et le grand déballage continue. Le joueur de Valenciennes, Christophe Robert, interrogé en garde à vue, finit par reconnaître qu'il s'est laissé corrompre.
Oui, oui. Oui, c'est vrai. J'ai reçu 250 000 francs de l'OM. Et j'ai planqué le fric dans le jardin de mes parents.
Mais son avocat dit que ce n'est pas lui, le méchant.
Je pense qu'il est extrêmement meurtri, extrêmement déçu par ce qui arrive. Je pense qu'il a véritablement une opinion très négative actuellement du milieu professionnel dans lequel il a travaillé ces dernières années. Et je pense que véritablement c'est un garçon qui est totalement accablé par les événements, alors que finalement... Même si les faits sont établis, et même si on peut dire que ces faits ne sont pas très très jolis, on est quand même obligé de constater que le milieu du football professionnel est tel à l'heure actuelle qu'il est difficile pour certains individus de résister à certaines pressions, car la responsabilité principale, elle n'est pas du côté des prétendus corrompus, mais des corrupteurs.
Les joueurs de Valenciennes désignent leur corrupteur, Jean-Pierre Bernès, le directeur sportif de l'Olympique de Marseille. Mais très vite, un autre homme apparaît dans le viseur de la justice, le donneur d'ordre, le président de l'OM lui-même, Bernard Tapie. La justice l'a clairement dans le viseur, et lui joue les vierges outragées.
Alors qu'il est, personne n'est élu, on assiste à la chasse à Tapie. On veut ça. Je trouve ça un peu dégueulasse, mais il faut l'accepter. Quand on a les ambitions que j'ai, il faut savoir qu'il y a ce risque. Donc cette chasse organisée, qui s'appelle de la chasse à court, elle est organisée avec un seul objectif, tuer Tapie. À la limite, pourquoi pas. Mais ce que je trouve anormal, c'est que pour atteindre ça, on n'hésite pas à fracasser, à détruire un club.
L'affaire devient le feuilleton médiatique de l'été 1993. Il faut dire que l'affaire est croustillante. l'OM vient juste d'être sacré champion d'Europe. Tapi est extrêmement populaire. Et surtout à ce moment-là, il est ministre de la ville. C'est même le chouchou du président François Mitterrand, qui prend sa défense, figurez-vous, lors de sa traditionnelle interview du 14 juillet.
Et il s'est révélé un excellent ministre. À mes yeux, hein, comme mes yeux étaient là, excellent ministre. Donc a priori, je n'ai pas de raison de dire que Bernard Tapie n'aurait pas dû être là. Comme président de l'OM, il semble qu'il a bien réussi. C'est une énergie. L'intelligence est une énergie. Très bien. Alors, pourquoi le mêler pour l'instant à cette affaire, alors que, à ma connaissance, et je sais si on en parle du matin au soir sur les télévisions et dans les radios, alors que le nom de Bernard Tapie n'a pas encore, s'il devait l'être, je dis encore, n'a pas été prononcé, en tout cas dans les instruments de justice. Il faut donc il faut se méfier des pratiques dangereuses. Quant à l'affaire elle-même, alors là je suis comme tous les autres, moi j'y connais rien.
Un président de la République qui commente une affaire judiciaire en cours. Le juge et le procureur de la République sont furax. Et du coup, ils redoublent leurs efforts pour confondre les responsables. Et ils en arrivent à la conclusion que oui, l'OM a bien corrompu deux joueurs de Valenciennes. Les condamnations tomberont 2 ans plus tard. Jean-Pierre Bernès écopera de 2 ans de prison avec sursis. Et Tapie prendra 2 ans dont 8 mois ferme. Et donc il file en tôle. Il y passera 165 jours. C'était le groupe américain REM avec un slow absolument incontournable de toutes les booms de 1993, Everybody Hurts.
1993, Ondelat raconte sur Europe 1.
En 1993, ça fait 9 ans que le petit Grégory a été retrouvé mort, pieds et poings liés, dans la rivière La Vologne, dans les Vosges. Et 9 ans plus tard, surviennent 2 événements. D'abord, Christine Villemain, la mère de Grégory, est officiellement blanchie. Ça faisait 7 ans qu'elle était inculpée du meurtre de son fils, et 7 ans plus tard, le juge concède que son dossier est vide. Alors en février 1993, il prononce un non-lieu. Et il insiste bien sur les mots. Aucune charge n'a été retenue contre Christine. Aucune. Ce qui n'échappe pas à l'avocat de Christine, Maître Garot.
Il n'y a pas de charge. Et ce qui est capital, c'est que le mot « suffisante » n'y est pas. Le texte de loi, le code de procédure pénale, parle toujours de charge suffisante. Et là, le mot « suffisante » a été enlevé. Il n'a pas été enlevé d'une manière non délibérée, c'est volontairement que la chambre d'accusation a enlevé le mot suffisant et a dit il n'y a pas de charge. C'est un arrêt de réhabilitation totale de Madame Villemain.
1993 est aussi marqué par un autre épisode lié à l'affaire Grégory. Le procès de Jean-Marie Villemain, le père du petit garçon, qui 8 ans plus tôt a abattu d'un coup de fusil son cousin, Bernard Laroche, convaincu qu'il était le meurtrier de son fils. Jean-Marie Villemain a été libéré après 33 mois de prison et donc il comparaît libre. Le procès s'annonce très tendu.
Fait rarissime avant la tenue d'un procès, les avocats de Bernard Laroche et de la famille Villemain se sont rencontrés ce matin dans le bureau du procureur de la République. Une réunion informelle afin de mettre en place les modalités du procès, la liste des témoins et limiter si possible les incidents éventuels. À n'en pas douter, pendant ces longues semaines de procès, l'affaire Grégory dans ses moindres détails sera évoquée. D'ailleurs, les avocats de la famille Villemain espèrent que devant la cour d'assises, un témoin craquera afin que l'on sache peut-être enfin, qui le 16 octobre 84 a tué le petit Grégory? Dijon, Didier Guyot, Europe 1.
Dans ce procès qui débute, il y a un enjeu officiel. Quelle peine Jean-Marie Villemain mérite-t-il pour avoir tué Laroche? Et il y a aussi un enjeu caché. A-t-il tué un coupable ou un innocent? Maître Velzer, l'avocat de Marie-Ange Laroche, la femme de Bernard, martèle d'entrée que Laroche était innocent.
Marie-Ange Laroche, bien sûr, je l'ai eu au téléphone, elle est catastrophée et depuis 8 années, elle subit cette affaire, elle a perdu son mari assassiné et maintenant, elle constate qu'on essaye à nouveau de salir la mémoire d'un mort et de son mari. Il est très important de rappeler que le juge Lambert avait innocenté Bernard Laroche, mais que lorsque le juge Lambert avait innocenté Bernard Laroche et remis en liberté celui-ci, le procureur de la République, représentant l'État français, n'avait pas relevé appel. Il avait donc été d'accord avec cette mesure de mise en liberté d'innocentement de Bernard Laroche. Vous savez, dans cette affaire qui dure depuis le 16 octobre 84, il y a eu des dérapages, médiatiques, et des dérapages juridiques. Et tout le monde perd son sang-froid.
Finalement, le procès ne va pas faire avancer le dossier. On n'apprend rien de plus sur l'affaire qu'on ne savait déjà. Rien ne sort qui prouverait que Laroche est responsable du meurtre de Grégory. Après 4 heures de délibéré, Jean-Marie Villemain est reconnu coupable d'assassinat. Il écope de 4 ans de prison ferme.
Ce soir, 5 femmes et 7 hommes vont retourner chez eux soulagés. Chacun des jurés de Dijon doit ressentir la satisfaction d'un devoir difficile accompli. Jamais ils n'oublieront l'extraordinaire expérience humaine à laquelle ils ont participé, qu'ils ont d'ailleurs profondément marqué de leur raison et de leur conscience. Le temps passant, personne ne saura jamais s'ils changeront d'avis. De toute manière, leur justice sera passée. Marie-Ange Laroche est très vite repartie rejoindre Muriel Boll. Pour les deux femmes, ce verdict est une sorte de réhabilitation de l'image de Bernard Laroche. Elle leur permettra cette condamnation d'obtenir de Jean-Marie Villemain des dommages et intérêts que la Cour fixera demain. Jean-Marie Villemain, lui, va dormir de nouveau dans cette cellule qu'il pensait pouvoir quitter très vite. En réalité, les dispositions de remise de peine prévues par le Code pénal vont lui permettre de retrouver sa femme et ses enfants dans quelques semaines. Christine Villemain, chavirée de déception, est restée longtemps dans une salle aux lumières éteintes du sous-sol du palais de justice. Débusquée par les photographes, elle a dû respirer à fond plusieurs fois avant de se décider à sortir, petite silhouette fine et visage blanchi de fatigue, offert comme sacrifice rituel au regard gourmand d'une foule venue voir ça. Demain, elle reprendra sans doute le chemin du parloir pour qu'il tienne encore l'homme dont elle a crié qu'il était son ami, son mari, son amant. Dijon, Paul Lefebvre.
Jean-Marie Villemain est par ailleurs condamné à verser 440 000 francs à la famille Laroche. Le soir même, il dort en prison. Mais ça ne dure pas. Il a déjà fait 33 mois de détention préventive. Il est libéré 15 jours plus tard. Le 30 décembre 93, toute la presse l'attend à sa sortie de prison. Mais c'est du temps perdu. Parce que Jean-Marie Villemain a quitté la prison caché dans le coffre d'une fourgonnette de l'administration pénitentiaire.
Pour des raisons de sécurité, Jean-Marie Villemain avait souhaité que sa sortie de prison se fasse dans la plus grande discrétion. Cette discrétion qui ne fut guère d'usage dans cette affaire a cette fois-ci été respectée. C'est donc à l'abri des regards que Jean-Marie Villemain a quitté la maison d'arrêt afin de retrouver son épouse Christine et ses 2 enfants, une retraite secrète qui met fin à une bataille médiatique et judiciaire qui aura duré plus de 9 ans.
bonnes idées sur le bien m'assomme. Je ne crains plus le regard de personne. À cette fièvre je m'abonne pour découvrir l'amour solo. Un peu poison dans la fibre nerveuse qui me met en deçà. Ascensionnel qui pénètre mes sens, si diffuse jusqu'au ciel, je me la donne. Pour cela, je ne crains plus personne. Et je n'attendrai plus qu'on me sonne. C'est en ton sourire que je soupçonne. C'est en toi que l'amour se leve. Je sais où l'amour se leve.
C'était comme un igloo qui se hissait dans le top 20 du hit parade en février 1993.
1993, on de la raconte sur Europe 1.
En juin 1993, Johnny fête ses 50 ans et pour l'occasion, il veut offrir un spectacle grandiose. Son choix se porte sur la plus grande enceinte parisienne, le Parc des Princes. Aucun artiste français ne s'y est encore produit. Il a décidé d'y donner 3 concerts.
Moi, quand j'ai sauté de l'Olympia au Palais des Sports, ça m'a semblé très grand, le Palais des Sports. Ensuite, quand j'ai sauté du Palais des Sports à Bercy, Bercy m'a apparu très grand. Je peux vous dire une chose, c'est que ce matin, j'ai été au Parc des Princes, regarder un petit peu le montage de la scène, de la structure de la scène, etc. Et que ça me paraît encore complètement dingue et encore beaucoup plus grand.
Il est très de vertige pour l'instant.
Mais il faut pas, je le prends pas en me disant j'ai trop le trac parce que je vais faire un spectacle. C'est une fête que je fais plutôt.
Mais on a l'impression en même temps que vous voulez rentrer dans le livre Guinness des records.
Non, c'est pas
une scène de 120 mètres
pas
de large.
Pour ça. C'est simplement que je voulais faire un spectacle un petit peu différent des autres et puis faire quelque chose que je n'avais pas encore fait.
Le 18 juin 1993 a lieu le premier concert de Johnny au Parc des Princes. Certains fans campent devant la porte depuis 2 jours.
Je suis arrivé mercredi matin à 9h30, 2 nuits devant le Parc des Princes, pour avoir des places prêtes, parce que les places on les a depuis à peu près 8-9 mois maintenant, et c'est pour être en premier rang.
Moi j'arrive de Bordeaux, j'ai passé la nuit aussi ici. De manière, on compte pas les heures pour Johnny, ça fait 20 ans que je le vois sur scène. Je mets de l'argent tout le temps de côté pour avoir mes places. Et s'il faut passer 2 nuits, 3 nuits, 4 nuits, je le ferai.
C'est quand même chiant.
Par tous les temps. Ouais, mais quand on aime, on compte pas quoi.
Ouais, ça c'est vrai, quand on aime, on compte pas. Surtout pour Johnny, le king français, ne l'oublions jamais. De tout le monde si on veut, enfin surtout notre idole à nous quoi.
Oui. Voilà. Moi je vois, j'ai ma mère qui va arriver tout à l'heure, qui a 70 ans et qui va être là tout à l'heure. Elle va aller voir le concert. Elle le suit depuis le début, et elle le loupe pas non plus. Ouais. D'ailleurs, nous c'est la famille, chez nous c'est famille Hallyday quoi.
Ouais, c'est notre dieu à nous. C'est un géant pour nous. C'est le seul à qui on peut se confier, c'est lui. On écoute une chanson, ça y est, on se sent bien, on est bien dans notre peau.
On s'identifie aux chansons, on se retrouve dans ce qu'ils chantent, on a l'impression que c'est notre histoire quoi, la chanson qui sort, c'est ce qui nous arrive quoi. Toutes ces chansons nous rappellent quelque chose, n'importe, bon, l'armée, un mariage. Hein. Moi je me suis marié sur Johnny, je suis parti au service militaire sur Johnny, j'ai travaillé sur Johnny.
Ouais, mais Johnny, par rapport à d'autres personnes, on n'arrive pas à leur expliquer la joie qu'on peut avoir. La joie quand on se connaît pas, mais on arrive à parler de Johnny, c'est vraiment super, c'est tout.
3, 2. Les gens m'appellent l'idole des jeunes. Il y en est même qui m'envient, mais ils ne savent pas dans la vie que parfois je m'ennuie.
Ce soir-là, au Parc des Princes, Johnny Hallyday est phénoménal. Contrat rempli.
Comme d'habitude, Johnny s'est montré généreux hier soir. Il a donné tout aux presque 60 000 personnes qui étaient venues fêter son 50e anniversaire pour ce premier spectacle du Parc des Princes. Le souffle, la sueur, le rock, une solo démentielle pour la musique et puis des moyens considérables pour l'image. La manière d'entrer en scène qu'avait choisi Johnny était tout un symbole. Ce n'était pas en hélicoptère, ce n'était pas d'une nacelle ou en moto ou encore surgissant d'une main d'acier. Non, Johnny est apparu tout à coup sous les projecteurs au milieu de la foule, entouré de gardes du corps, et c'est ainsi qu'il a rejoint la scène qu'il n'a plus quittée pour près de 4 heures.
Le budget de cette série de 3 concerts avoisine les 40 millions de francs. Sur scène, on a bâti une réplique du pont de Brooklyn. Son fils, David, est là. Et même son ex, sa première femme, Sylvie Vartan.
C'est Sylvie Vartan qui emprunte un monte-charge pour rejoindre son premier mari. Pendant le voyage, Sylvie chante « Souviens-toi de nos tendres années » et Johnny la regarde comme pétrifié.
Si mon cœur ne peut être pour toi le premier où j'attendrai afin d'être dans ta vie la dernière où je serai dans ton avenir loin des souvenirs pour te faire oublier tes tendres années. Je serai dans ton avenir loin des souvenirs pour te faire oublier tes tendres années.
Sylvie Vartan et Johnny Hallyday remontent le temps pour la plus grande joie de leurs fans.
Je crois que c'est le moment où j'étais le plus émue. On a l'impression que Johnny et Sylvie, c'est comme au premier jour. Il est toujours aussi beau, toujours aussi talentueux. Johnny, il a toujours 14 ans, toujours 16 ans. C'est quelqu'un de... Il n'y a pas de qualificatif pour le qualifier. Johnny, je crois que le jour où il disparaîtra quelque chose de ma vie.
C'est génial. C'est génial, il est toujours jeune. Il aura toujours 20 ans. C'est tout à fait normal pour Johnny. Il vieillit pas, il vieillira jamais.
Du coup, les cadras et quinquagénaires venus en nombre hier soir pour assister à la première ont été comme regonflés par la prouesse de Johnny qui a chanté 3 heures sans casser sa voix. C'était presque la victoire d'une génération.
C'est le meilleur, c'est le meilleur.
Vous avez quel âge ?
45 ans.
45 ans, moi, je suis un fan de Johnny, moi.
Sublime. Pourquoi ? Tonicité, à 50 ans, près de 4 heures en scène, chapeau. Hein.
Vous avez quel âge ?
58.
Ouais, mais c'est votre génération là qui chantait, non ?
Ouais. Enchanté, heureux.
Beaucoup de vedettes assistent à ces 3 concerts de Johnny au Parc des Princes. Catherine Deneuve, par exemple, est là.
J'ai vu quand même pas mal de ses spectacles, je suis quand même épatée, oui, vraiment. Il s'est fait un cadeau somptueux, c'est un spectacle absolument magnifique, le Parc des Princes quand même pour son anniversaire. Je savais qu'il en était capable, mais je dois dire qu'il a été vraiment à la hauteur de la soirée.
Le chanteur Philippe Laville est là aussi, époustouflé par la performance de Johnny.
C'est un mec qui a une énergie et une puissance physique hors du commun. Bon, il doit avoir un trafic dans les cordes vocales, c'est pas possible de tenir 3 heures comme ça, en chantant, en hurlant et en mettant les intonations là où il faut les mettre, chaque fois, c'est surtout ça. Parce qu'il ne s'agit pas de gueuler, il s'agit de mettre des intonations, et là il les met les intonations. Donc il chante bien quoi. On a dit que Jackson était un mutant, moi à mon avis c'est Hallyday le mutant. Ce qui me fait vraiment plaisir, c'est qu'un artiste français remplisse le Parc des Princes pendant 3 jours, aurait pu faire pendant 6 jours, sinon il y a des problèmes d'autorisation.
Philippe Laville, qui est à l'époque un chanteur star, voit un intérêt à ces 3 concerts de Johnny. La défense de la chanson française.
Il chante pas une seule chanson en anglais, quoi. Alors au moment où on est là, nous, à se bagarrer un peu pour essayer qu'on écoute la chanson française, ben, il y a lui qui a 50 ans, il arrive, il rebondit magnifiquement bien, et il dit voilà, moi j'ai 50 ans et je vous emmerde tous, je fais le Parc des Princes, je chante en français. Si vous voulez venir, vous venez. Si vous voulez pas venir, venez pas, mais moi j'y serai quand même. Et ils sont là. Quand un mec a décidé quelque chose et qu'il le décide avec l'équipe qu'il a, bon, quand c'est Hallyday, il arrive à faire des choses que personne ne peut faire.
Chaque soir, Johnny interprète 52 titres sur scène. Au total, ces 3 concerts attirent 150 000 spectateurs.
Les gens m'appellent l'idole des jeunes. Il en est même qui m'envient. Mais ils ne savent pas dans la vie que parfois je m'ennuie. Je cherche celle qui serait mienne. Mais comment faire pour la trouvé. Le temps s'en va, le temps m'entraîne. Je ne fais que passer. En la nuit, je file tout seul de ville en ville. Je ne suis qu'une pierre qui roule toujours. Bien la fortune et plus, et mon nom partout dans les rues. Pourtant je cherche tout simplement l'amour. Les gens m'appellent l'idole des jeunes. Il en est même qui m'envie. Mais s'ils pouvaient savoir combien tout seul je suis, combien tout seul je suis.
C'était Johnny Hallyday interprétant l'idole des jeunes en 1993 pour ses 50 ans au Parc des Princes. Ondelat raconte poursuit sa visite de l'année 1993 dans le cinquième épisode.
Retrouvez Ondelat raconte tous les jours sur Europe 1 et quand vous voulez sur Europe 1.fr, l'appli Europe 1, vos réseaux sociaux et vos plateformes d'écoute.